Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé suffit.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre promenade.
Non, cela est vrai, mais faites promptement, maudite
galère! Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Scène de vie, vie de scène du mois d'avril, l'émission qui prend son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors une fois de plus, cette émission prendra son temps de vous parler du spectacle vivant, de nos préoccupations culturelles du mois. Mais avant tout, nous devons expliquer pourquoi est-ce que nos voix résonnent légèrement dans les oreilles des auditeurs.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une fois de plus en extérieur. Nos envies de sortir du studio se concrétisent une nouvelle fois ce mois-ci. Nous sommes au Théâtre du Grand Forum, à Louviers.
Oui, où il y a une actualité de spectacle vivant, une scène vivante sur Louviers. On a décidé d'installer notre plateau pour un peu évoquer, échanger autour de la scène vivante sur Louviers.
Et bien justement, que retrouvons-nous dans l'émission de ce mois-ci?
Alors, on a beaucoup de monde aujourd'hui sur le plateau. On accueillera d'abord Nadège Hardy. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Qui reviendra avec nous. Ce matin, il y a eu un petit temps de visite avec les stagiaires de l'IFAC. Donc, on fera un petit retour sur ce moment partagé ensemble.
Alors Nadège, pour tout dire, elle est formatrice sur des groupes d'animateurs socioculturels.
Oui.
Elle a également une formation de médiation culturelle. Donc
oui.
Nous échangerons avec elle sur le lien qui est entre le socioculturel et le culturel. Existe-t-il des passerelles ou pas?
Et puis nous avons également en invité, en deuxième partie d'émission, Guillaume Poignard qui dirige la Gare aux Musiques à Louviers. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Philippe de Roder qui est le directeur de la scène nationale Évreux-Louviers. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Nous aurons également Cécile.
Et en dernière partie, les artistes du spectacle accueilli actuellement à la scène nationale Évreux-Louviers, donc à Louviers au Théâtre du Grand Forum, qui sont Farid Berki, directeur artistique pardon, de la compagnie Melting Spot, Rodrigue Ousmane et John, ces deux danseurs, qui viendront nous retrouver pour clore ce plateau.
Nous terminerons l'émission avec l'agenda, en tout cas les éléments qui nous ont paru importants. Et nous finirons également avec un court extrait sonore, comme nous avons pris l'habitude maintenant depuis un petit moment.
Court extrait filmique sonore.
Exactement. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous propose de retrouver notre ambiance de son, un moment de vie.
Eh bien, JC, qu'écoutions-nous dans cette prise de son en direct? Ça bouge, ça a l'air de bouger sur le plateau.
Alors ça bouge énormément. Cette prise de son a été faite le samedi dernier à l'occasion de l'événement Amazing Day. C'était un battle hip-hop international qui se passait à la salle Omnisport.
D'Evreux.
D'Evreux, absolument. Au début, nous n'étions pas partis sur cette prise de son en début d'émission. Et finalement, moi, en assistant à cet événement, je me suis dit, on parle régulièrement de spectacles vivants. Et là, pour le coup, on a vu une réelle... voilà, c'était poussé quasi à l'extrême, le spectacle vivant, parce que c'était vivant sur le plateau, là où ça dansait. Donc c'était des battles de trois danseurs face à trois autres danseurs. Là, en l'occurrence, c'était les trois Coréens face aux trois Russes. Mais le spectacle est également dans les tribunes. On entendait dans ce court extrait que ça criait, que ça vivait énormément. Parce que dans les battles, il y a un truc assez particulier, c'est que ça cherche mutuellement. Voilà, c'est à celui qui va faire la meilleure phase à l'autre. Il y a des parents qui expliquaient à leurs enfants, en fait, c'est une espèce de bagarre, mais en danse. Et on était complètement là-dedans. Ça se chauffait, ça s'ambiançait, ça allait un petit peu gazer, comme on dit.
Et est-ce que c'est le public qui élit le vainqueur de la battle ou...
Non, là, il y avait trois juges qui étaient... certains étaient vice-champions de France de danse hip-hop. Enfin, bon, il y avait tout un palmarès au niveau des jurys, mais c'était les jurys qui statuaient sur les vainqueurs de ces battles.
D'accord. Bien. Tout ça dans un esprit super bon enfant.
Complètement. Voilà. Absolument.
On continue, on poursuit.
Et j'allais vous le proposer avec une première pause musicale, celle de Nadège, que nous accueillons en plateau juste après. Nadège, un petit mot d'abord sur votre choix musical.
Oui, j'ai ramené un morceau des Dorian's Grace, qui est un groupe d'Evreux. Pour la petite anecdote que moi j'entends souvent répéter depuis mon bureau. Et voilà, le P vient tout juste d'arriver. Donc je l'ai récupéré hier et je trouvais ça bien de l'écouter aujourd'hui.
Eh bien, nous écoutons votre choix musical.
Sleep bombs running with the watch ship wall.
Dorian's Grace, Steve McQueen.
Voilà un choix de Nadège Hardy que nous accueillons en plateau. Nous le disions en introduction, Nadège Hardy, vous êtes intervenante de théâtre sur un groupe de stagiaires en formation, enfin sur des groupes de stagiaires en formation, des animateurs socioculturels qui a priori vont s'occuper de nos bambins, de nos anciens, ou en tout cas qui vont intervenir dans le champ du socioculturel. Vous êtes également en dehors de ça médiatrice culturelle. Vous m'arrêtez quand je me trompe. Et du coup, nous allons échanger avec vous pour voir un petit peu les liens également entre le socioculturel et le culturel pur et dur. Je ne sais pas si on peut utiliser ces termes-là, mais en tout cas, la partie culturelle et la partie socioculturelle. Nous avons toujours en plateau avec nous Guillaume Poignard et Philippe de Reder. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez au bout d'un moment dans nos échanges. Nadège Hardy, vous êtes donc aujourd'hui sur le théâtre du Grand Forum avec des stagiaires. Vous avez fait la visite de ce théâtre du Grand Forum. Comment ça s'est passé ?
Écoutez, c'est peut-être plus à eux qu'il faudrait le demander, mais ça s'est plutôt bien passé. On est arrivé dans la matinée, donc nous étions accueillis par Cécile ici pour la scène nationale. C'est elle qui a géré la présentation du lieu et qui a expliqué aux stagiaires comment ça fonctionnait.
Lâchez le micro, on entendait
en fait,
un peu des bruits.
J'arrive pas, je le trouve un peu bas, mais voilà.
Merci, petit réglage technique.
On a fait vraiment une visite, on est passé dans les coulisses, dans les loges, etc. Donc je pense que pour eux, c'était assez intéressant, puisqu'ils ont eu un point de vue qu'on n'a pas quand on est simple spectateur.
C'est effectivement, est-ce que vous pensez que cette visite du théâtre, ça va changer leur point de vue du spectacle ?
Est-ce que ça va changer leur point de vue du spectacle ? Je ne sais pas, mais peut-être leur vision d'un lieu théâtral. Parce que pour certains, c'est pas forcément un lieu habituel. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, un peu une appréhension, mais un côté je connais pas ce lieu, j'ai pas la facilité à y aller. Et peut-être que cette visite un peu plus personnalisée, ça peut les familiariser, en tout cas, avec le fait de passer la porte du lieu.
Une question, peut-être que pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils rentraient au théâtre du Grand Forum ou qu'ils découvraient les coulisses d'un théâtre. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelques...
Il y en a qui sont à côté.
Et les formations en formation sont là.
On peut les inviter à partager le micro avec nous. Hein.
Voilà. En tout cas, pour répondre déjà à une première partie de cette question, la plupart sont assez jeunes. Allez-y. Certains d'entre eux ont 17 ans, donc déjà simplement pour une question d'âge, oui, ça peut être une première fois. Je ne sais pas, Mathieu, tu veux intervenir ?
Personnellement, c'est la première fois pour moi que je visite un théâtre. Donc je pense que pour la plupart des autres stagiaires en formation, c'est pareil au même. C'est une grande découverte, quoi.
Pareillement, comme Mathieu, pour moi, c'était la première fois que je rentrais dans un théâtre et... Je dois dire que l'ambiance, on est directement plongé dedans, donc c'est plutôt positif pour l'ensemble du groupe et pour nous individuellement.
Ça concrétise des choses pour vous ? Je sais pas, parce qu'on peut entrer dans un théâtre en ayant des idées d'une salle, un théâtre, mais je sais pas, qu'est-ce que vous retiendrez de cette visite qui vous a marqué, quelque chose de très concret ?
Je pense plutôt à tout ce qui est l'effet technique. Sur tout ce qui est cintre, donc là je parle plus avec des termes techniques, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'on pense pas souvent à tout ce qui est technique lorsque nous on regarde quelque chose, et ce qu'on voit derrière c'est quand même assez impressionnant.
C'est un peu le but d'ailleurs que la technique se voit pas durant le déroulement du spectacle, hein, qu'elle soit justement transparente, c'est un peu l'effet recherché.
Après, peut-être qu'il faut aussi préciser, enfin, où j'anticipe sur les questions, mais que ces animateurs en formation, dans le cadre de ce qu'on appelle un support technique, puisque c'est un support technique, activité théâtrale pour eux, c'est-à-dire ils doivent maîtriser une technique d'animation, ils doivent présenter un spectacle eux-mêmes, c'est-à-dire que je les accompagne de l'animation d'atelier avec eux, de l'apprentissage des techniques de respiration, de placement de voix, d'improvisation, etc. Et on choisit ensemble un texte et on met en scène ensemble un texte, le but étant qu'à l'issue des 11 séances que nous avons ensemble, ils sont en capacité, eux, de gérer la mise en place d'un spectacle avec des enfants ou des jeunes au sein des structures où ils interviennent.
Alors, ça me fait rebondir sur une question, justement, qui, vous êtes intervenant de théâtre, vous proposez donc des techniques de théâtre, et vous, quel est votre rapport, ou à quel moment faites-vous appel à un artiste pour enrichir la formation, ou partager, ou confronter? Est-ce que, voilà, à un moment dans la formation arrive la présence, on va dire, d'un autre artiste qui peut alimenter, enrichir, apporter un autre regard?
On n'a malheureusement pas toujours le temps ou la possibilité de faire intervenir un artiste durant la formation. C'est pour ça aussi que j'aime bien, moi, essayer de les emmener sur un spectacle et avoir au moins un rapport à la scène autre qu'avec moi, effectivement. En général, comme ils sont évalués par un jury professionnel à l'issue, quand eux présentent leur spectacle, il y a un professionnel de l'animation et en général, je fais intervenir quelqu'un du milieu du théâtre. Donc à ce moment-là, ils peuvent aussi être confrontés à un artiste autre que moi, avec des retours sur vraiment ce qu'ils ont présenté.
Justement, le lien entre le socio-culturel, ou ce qu'on pourrait appeler le socio-éducatif culturel de l'animation, et le culturel à proprement parler, est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on retrouve un peu les termes autour de certaines sensibilités, mais est-ce qu'il y a un lien direct entre l'animateur socio-culturel et je dirais, l'environnement plus culturel?
Pour moi, il y a un lien évident. Après, l'animateur, il est au centre de tout un tas de techniques ou de secteurs à faire découvrir aux jeunes, puisqu'eux, ils font aussi des animations sportives, ils peuvent faire des animations autres que... Enfin, je crois que vous avez randonné aussi, vous, par exemple, dans votre module, autre que du spectacle. Mais en fait, ils utilisent énormément d'outils artistiques, hein, la musique, les arts plats...
Art plastique.
Le théâtre, le chant, toutes sortes de médiums, et je pense que il y a vraiment un lien évident.
Il se positionne, en tout cas l'animation socioculturelle se positionne comment? Sur une sensibilisation au monde des arts, ou directement sur une pratique?
Ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend aussi comment l'animateur, lui, va être investi ou va se sentir par rapport à une technique artistique. S'il pousse sa formation ou si lui se sent à l'aise, il peut aller plus loin que la sensibilisation.
Sur, Nathalie.
Non, c'est un débat intéressant. Je pense aussi à une question... L'animateur va travailler avec des publics totalement différents. Il construit un projet avec des objectifs, je pense, qui vont être propres à son projet avec telle population. Oui. Ce qui est intéressant, c'est comment ça... Après, moi, je connais moins bien le côté socio-culturel, mais comment ça se passe un petit peu concrètement sur des projets on a un groupe, on va être avec une population, on la rencontre, c'est des idées qui émergent ensemble ou du point de vue de l'animateur
Alors, il y a différentes méthodes, différentes approches, on va dire, différentes approches. Eux, ils sont formés, en tout cas, ils ont une approche globale des publics avec les tranches d'âge. En plus, là, c'est une formation tout public, donc ils peuvent travailler avec les petits, mais aussi avec des publics âgés ou dans des centres sociaux, etc. Donc l'approche, ça va dépendre aussi de la méthode pédagogique de l'animateur. Est-ce qu'il va avoir envie de faire avec? Est-ce qu'il va avoir envie, lui, de proposer des choses? Bon, en général, ils n'imposent pas. C'est vraiment lié aussi à la vision de l'animateur et sa façon de travailler.
Et question toute bête, toute bête, mais après, un animateur est employé dans quelle structure? Enfin, quel est le panel des... Voilà, des structures associatives ou autres qui peuvent accueillir.
Il y a un panel assez large qui va des structures municipales, les accueils de loisirs municipaux, services jeunesse aux associations, les maisons de quartier, les maisons de retraite aussi, puisque ce sont des tout publics. Tous les lieux, en fait, où il peut y avoir, tous les lieux où il peut y avoir une animation mise en place, quel que soit le public.
Philippe, vous vouliez intervenir?
Oui, non, mais ça me fait penser que effectivement, souvent, par le passé, on a opposé un petit peu toute l'action culturelle, enfin, voilà, la culture et le socioculturel. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que, enfin, en ce qui me concerne et toute notre génération de directeurs de scène nationale, de théâtre, on est tous passés par ce qu'on appelle l'éducation populaire et on a tous été au départ des animateurs. Et je crois que toute notre pratique fait qu'à l'intérieur de nos structures, on a toujours essayé de conserver cette mission de sensibilisation, d'éducation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a énormément d'ateliers, il y a énormément d'actions culturelles qui sont à l'intérieur de nos maisons. C'est des choses qui ne sont pas forcément visibles comme ça d'une manière très importante, mais ça fait partie effectivement de notre cursus. Donc il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a simplement effectivement deux publics souvent un petit peu différents. Les animateurs s'occupent souvent d'enfants, de jeunes ou des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller dans des lieux comme les nôtres. Et tout l'intérêt en ce qui nous concerne, c'est de faire le lien entre les deux et de permettre effectivement à ce que les animateurs qui travaillent en direction de ces publics, à un moment donné, renvoient ce public à des lieux, des lieux structurants qui permettent de proposer des choses dans des conditions professionnelles et voilà. Mais donc la séparation elle n'est pas historique. Par contre effectivement ce qui est important effectivement comme tu le rappelais, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi la présence d'artistes à un moment donné pour compléter en fait ce que les animateurs peuvent faire et pour enrichir effectivement le discours. Et en même temps beaucoup d'artistes aiment beaucoup avoir cette réalité là d'un public qui n'a pas l'habitude d'y aller pour renvoyer en fait à une chose, une lecture de leur propre démarche.
Oui, tout à fait. Et je pense aussi que, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, tous les projets d'action culturelle et de médiation culturelle dans les structures culturelles pures ont vraiment accentué ce lien entre l'éducation populaire et... vous parliez tout à l'heure, je disais, du culturel pur et du socioculturel. Je pense que ce lien est de plus en plus développé par ces projets-là.
Et d'ailleurs, on les retrouve même jusqu'aux écoles où les instituteurs font aussi partie de ce réseau d'intervenants sur le culturel, le socioculturel, le socio-éducativo-sportivo-culturel. en tout cas, non, mais on sent tout un maillage des différents partenaires, ce qui sera également l'objet de l'échange que nous aurons juste derrière. Je vais inviter peut-être Guillaume à présenter la pause musicale qui va suivre. Entre deux, nous remercions Nadège d'avoir partagé ce micro avec nous.
Merci de votre invitation.
Avec,
merci aux élèves également.
Vos stagiaires, voilà. Exactement. Guillaume Poignard, vous êtes occupé de la pause musicale qui va suivre. Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre choix.
Bien, une fois n'est pas coutume, je ramenais, enfin quoi que, il y a une surprise encore derrière, mais il ne s'agit absolument pas d'un artiste régional, etc. C'est un petit coup de cœur. C'est le nouveau projet du chanteur-bassiste d'un groupe américain qui s'appelle Primus. Et donc voilà, c'est un petit projet un peu country, folk, bizarroïde, à base de basse et de guitare dobro acoustique. Et donc là, une petite reprise assez sympa, donc je vous laisse la surprise. Voilà, ça s'appelle Duo de Twang. I was born when it's all right.
Twang Staying Alive, ce qui me laisse très perplexe sur les samedis soirs de Guillaume Poignard.
Oui,
bon, donc... t'étais là, je crois, la dernière fois.
Donc, Guillaume Poignard, Philippe de Reder, deux acteurs majeurs de la scène vivante à Louviers. Donc, pour poser un peu le contexte, nous sommes dans une ville de...
Staying Alive. Spectacle vivant.
Ah, oh là, bien sûr. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais...
Quel talent.
C'est en raccord total, Guillaume Poignard. Donc oui, Louviers, ville de 20 000, 25 000 habitants à peu près.
17 000.
Ah, après, il faut compter l'agglomération. On échange aujourd'hui, là, sur cette deuxième partie de plateau, sur la vie de la scène vivante à Louviers. L'illustration, nous sommes au Théâtre du Grand Forum. Donc Louviers est doté d'une grande salle, plateau de à peu près 500 places. Il y a une gare aux musiques, donc un lieu de formation, d'apprentissage, de diffusion aussi de la musique actuelle sur Louviers. Philippe de Reder, vous êtes directeur de la scène nationale, donc une antenne scène nationale à Louviers, Évreux-Louviers. Vous nous expliquerez aussi d'où ça vient et voilà comment on peut être aussi scène nationale sur deux villes d'un département. Et bien sûr, s'excuse, nous avions également invité Olivia Paoli pour la scène du Moulin, qui est plutôt une structure qui accueille l'ensemble des associations et a une but aussi de programmation de
oui,
spectacles.
C'est un lieu de création aussi, création. Principalement. Enfin, pour le volet culturel, c'est un petit. On retrouve un peu la même philosophie, un peu le même fonctionnement que la gare en musique. Nous, on est spécialisés vraiment en musique actuelle et eux, vraiment théâtre, danse et forme un petit peu hybride qui peuvent mélanger tous les genres du spectacle vivant. Et à côté de ça, effectivement, il y a aussi un volet d'accueil d'événements associatifs, etc. Mais la programmation culturelle vraiment du Moulin, concentrée sur le théâtre et la danse.
Donc, à la lecture de ces structures, on pense que c'est une ville assez riche en équipements culturels et artistiques, puisque 17 000 habitants, trois voire plusieurs structures avec des scènes, des plateaux, des lieux de répétition, des studios, un équipement assez riche. C'est comment vous travaillez avec le public du coup de Louviers, les Louvériens? C'est quelle utilisation vous estimez qu'ils font de ces équipements, vous, en rapport direct aussi avec les habitants de cette ville où vous êtes implanté? Vous êtes service direct municipal?
Oui, tout à fait. Ouais, la gare en musique, c'est la ville de Louviers, service culturel, comme le musée ou la médiathèque, par exemple, etc. On travaille avec deux types de publics. Nous, le premier, c'est le public musicien. En tant que ce qu'on appelle lieu de fabrique, musique actuelle, c'est vraiment le premier public qui vient fréquenter et profiter de la gare en répétition, en enregistrement, en répétition sur scène, ce qu'on appelle en résidence, en formation, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'activité, 6 jours sur 7, toute l'année. Au-delà de ça, il y a la cerise sur le gâteau, à peu près une fois par mois, on fait un concert, on organise une soirée vraiment de diffusion, donc concert, où là, on va s'adresser au public spectateur. Voilà, on travaille déjà sur ces deux publics-là qui se recoupent, mais dont les spécificités sont assez, assez différentes. Donc il y a beaucoup d'amateurs de musique et de musique actuelle sur Louviers, comme des musiciens aussi, mais on a un rayonnement qui dépasse quand même largement, je ne sais pas si je pourrais dire ça quand même, mais qui dépasse le cadre de Louviers et de la case, de la communauté d'agglo, quoi. Mais donc voilà, après la manière dont on travaille avec eux, en communication par tous les biais différents, on travaille en médiation peut-être plus particulièrement,
oui,
on travaille avec les plus particulièrement avec le lycée des Fontenelles, qui a un club de musique. Donc qui n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est que des jeunes intéressés, musiciens qui viennent là. Donc on leur propose, on leur permet de sortir un peu du foyer du lycée dans lequel ils ont une demi-heure pour répéter le mercredi, etc. pour venir répéter à la gare. On leur a proposé, enfin on leur a plus que proposé, parce qu'ils sont venus jouer, fête de la musique, soirée de Noël, etc. Donc on essaye d'aller à la rencontre en tout cas de toutes les bonnes volontés des gens, des jeunes motivés. Et on leur apporte simplement, on leur met à disposition tout simplement les outils qu'il peut y avoir à la gare musique pour qu'ils puissent développer leur projet au-delà du cadre du foyer du lycée.
Philippe Deroder, sur le public scène nationale, vous l'appréhendez comment sur Louviers? Est-ce qu'il y a une approche différente, par exemple, qu'à Évreux ou que sur d'autres structures?
Non, pas vraiment. En fait, on a une structure effectivement en tant que scène nationale un peu atypique, puisqu'on est implanté principalement sur deux villes, Évreux et Louviers, en sachant que la participation un petit peu budgétaire de la ville d'Évreux et de Louviers, c'est un tiers, deux tiers. Hein, donc on est, y compris dans le nombre de propositions de spectacles sur Louviers, on est à peu près sur une vingtaine de spectacles. Hein, cette année, on fait à peu près plus de 9000 entrées. Donc on a effectivement essayer de croiser un peu les publics entre Évreux et Louviers. C'est vrai que pendant longtemps, sur Évreux, on n'avait pas forcément deux salles, donc on est venu beaucoup à Louviers. Mais on se rend compte que concrètement, le public sur Louviers est assez centré sur Louviers et l'agglomération de Louviers. Et sur Évreux, on est aussi un petit peu dans cette optique-là. Donc c'est toujours un petit peu difficile de croiser les publics. Mais l'idée, c'est que à la fois sur Louviers, il y ait une programmation cohérente, à la fois musique classique, théâtre, danse, humour, cirque. Hein. Cette année, on a eu de très 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 beaux projets qui ont très très bien marché. On a eu des très belles salles et on a encore d'ailleurs d'autres projets qui vont arriver, notamment avec Sylvain Groux, un très beau projet donc Music for Hated Musicians sur des musiques de Steve Reich avec beaucoup d'amateurs qui vont participer. Donc il y a tout un travail qui est fait en amont. Et donc là, ça va être d'une très belle. On est vraiment sur des propositions assez pluridisciplinaires. Hein. C'est notre vocation, donc effectivement à travailler sur ce territoire.
Vous êtes, on parle plus spécifiquement de Louviers, on disait en introduction, trois structures de diffusion et de programmation sur Louviers. Comment s'organise le travail entre
pas
vous
seulement.
Pas seulement.
Moi j'ajouterais aussi les deux auditoriums. Parce qu'il y a un très bel auditorium à la médiathèque dans lequel il y a également de l'événementiel. Il y a des conteurs, des conteuses aussi qui viennent régulièrement. Des petits formats comme ça. C'est un très bel auditorium d'une cinquantaine de places. Et surtout le tout nouvel auditorium de l'école de musique qui est aussi un peu pour les Happy Few, une soixantaine de places, mais un très très bel équipement qui permet aussi à l'école de musique et à l'avenir aussi de proposer des diffusions. Au dernier étage, pour ceux qui n'ont pas encore visité la nouvelle école de musique de Louviers, on peut la visiter, c'est un superbe lieu, l'auditorium est juste fantastique.
Alors du coup, là, vous nous faites rêver 17 000 habitants, 5 lieux de diffusion. J'imagine que vous travaillez en complémentarité, que vous travaillez en partenariat. Comment s'organise au bout d'un moment une programmation à l'échelle d'une ville ou d'une agglo quand il y a 5, ou en tout cas plusieurs intervenants?
Je pense qu'on a des tailles différentes au niveau des salles, forcément, puisque la salle du Grand Forum, elle est quand même une salle de plus de 450 places, donc évidemment on fait pas les mêmes spectacles dans cette salle-là qu'au Moulin. Par contre, on travaille historiquement avec le Moulin. On a des propositions parce que là, pour le coup, le Moulin c'est une salle plus intimiste, mais en vrai, qui est une très belle petite salle et qui permet de proposer des choses plus intimes, comme on l'a fait récemment avec certains spectacles qui nécessitaient cette proximité du public et du lieu. Et donc, c'est en jouant à la fois sur ces salles, sur ces collaborations, c'est vrai que l'idée aussi, par exemple, sur le jeune public ou sur certaines forme, on est plutôt sur des femmes plus réduites. Donc on est dans cette collaboration-là, aussi par nécessité, parce que les salles sont bien adaptées à certains spectacles et pas d'autres, et aussi parce qu'il y a une histoire de rencontres. Il y a aussi des hommes et des femmes qui dirigent ces lieux et qui ont envie de travailler ensemble et de travailler en complémentarité, parce qu'on on s'alimente. Et en ce qui nous concerne, par exemple, au niveau de la scène nationale, on a créé un réseau, ce qui s'appelle le réseau 27, qui regroupe l'ensemble des lieux de diffusion sur le territoire de l'Eure. Et dans ce cadre-là, il y a aussi ce travail en commun qui fait avancer aussi les choses.
Concrètement, c'est quoi? C'est des coups de fil réguliers quand on commence à programmer en pré-saison?
C'est
qu'est-ce que tu fais toi, moi je fais ci, enfin, c'est un peu, ça se passe comme ça ou pas?
C'est ça.
C'est quelque part un peu le travail de réseau, mais en interne, quoi, un peu de la même boutique, et donc forcément, c'est soit de manière informelle, on se contacte, tiens, j'ai une super opportunité d'un spectacle, moi effectivement avec la couleur de programmation de ma salle, c'est pas forcément évident. Par contre, si on s'associe à deux, ça peut le faire. Ou voilà, moi mon lieu n'est pas disponible cette date-là, est-ce que au cadran ou dans la cave du moulin, la salle est dispo? Si oui, on organise la chose, etc. Donc ça peut venir de manière horizontale en discussion comme ça peut venir aussi directement d'une proposition, pourquoi pas des élus ou de la direction de la culture. Voilà, mais il y a effectivement, comme il peut y avoir au niveau régional ou national, un travail en réseau avec les homologues des autres salles, des autres festivals, etc. Ça se passe aussi un petit peu comme ça, on retrouve un peu ce mécanisme aussi un peu en interne, quoi.
Excusez-nous, on est en train de se faire des signes et justement vous terminez au moment où on n'avait pas bien compris nos signes.
En fait, Cécile, c'est vraiment l'idée d'unir ses forces finalement, parce que sur même si effectivement Louviers c'est quand même 17 000 habitants et qu'il y a, on l'a dit, et comme disait JC, ça fait vraiment rêver, en gros 5 lieux où il peut y avoir de la production de spectacle vivant, c'est d'unir ses forces pour être plus fort. Un peu, le fait de travailler comme ça aussi,
oui,
ensemble.
Oui, déjà, pour ces lieux-là, on est, comme je le disais, on travaille, sont des lieux qui ont chacun leur identité, leur équipe, etc. Mais on fait tous partie de la même équipe, quoi. Donc c'est juste tout à fait naturel de travailler ensemble. Après, il y a des, comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a aussi des spectacles qui, de par leur forme, peuvent mélanger par exemple théâtre et musique, ou danse et musique, ou art de rue et jazz, etc. Donc par rapport à, la gare musique qui est plutôt musique, le moulin qui est plutôt danse, etc., on va se retrouver à mettre nos compétences, nos connaissances et nos compétences en commun, tout simplement. Donc ça se fait très naturellement, et d'autant plus sur des formes, on va dire, un peu transversales, quoi, qui mélangent un peu les genres.
Alors là, on est vraiment sur la partie programmation artistique, mais j'imagine aussi que ça demande une coordination des programmations. Est-ce qu'on fait des choses en même temps, sur la même journée? Comment ça se coordonne dans, on va dire, le calendrier de tout ça? Parce qu'on est quand même sur 17 000, 20 000 habitants, 5 structures. Enfin voilà, c'est des réunions, c'est une coordination globale.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a des réunions, des rendez-vous. On se croise notamment,
Je pense au public toujours derrière.
Bien sûr. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a un maximum de cohérence. Donc les services culturels des villes aident aussi à ça, hein. C'est leur mission aussi d'avoir une cohérence sur chacune des villes. Donc il y a ces réunions-là intramuros à l'intérieur des villes, et puis il y a aussi nécessairement aussi à regarder ce qui se passe un petit peu autour, hein. Je pense ici par exemple à Val-de-Reuil, il y a d'autres lieux, et donc à faire attention aussi à ce que les uns les autres on ne se marche pas sur les pieds, ou pas des spectacles qui sont de la même taille, le même public et donc ça c'est un peu aussi l'objectif des réseaux comme on le disait, à la fois dans le réseau de la musique actuelle ou dans le réseau 27 pour la danse et le théâtre, tel qu'on le fait.
Et puis très, très concrètement, quand on prépare chacun nos saisons dans nos coins, dès qu'il y en a un qui cale des dates, genre vendredi 16 avril, j'ai un concert, donc une fois qu'on a fait sa petite programmation au moins pour les dates, on se les envoie, on se les fait tourner par mail. Si le même soir il y a du cirque et du hardcore, c'est pas grave. Si on fait deux spectacles chansons le même soir, en amont, on s'échange les infos et on s'arrange, forcément.
Est-ce qu'on peut parler carrément de projet culturel global? Est-ce qu'on peut se dire d'un moment que vous travaillez sur un projet commun, parce que là on sent qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'on en est au point de se dire c'est un projet culturel, des objectifs culturels?
Alors là je vais te laisser répondre.
Oui, non, je pense qu'on a chacun notre projet, chaque directeur de lieu a un projet culturel. Maintenant, le projet culturel global, c'était plus un projet politique, c'est-à-dire que là c'est aux politiques à définir sur leur territoire un projet culturel.
Sur un service municipal, on se dit il est évident que le service municipal met en place le projet politique de la ville, mais sur une association type la scène nationale, c'est moins évident que ce soit un projet politique.
C'est moins évident et en même temps si, c'est-à-dire que tout projet culturel d'une scène nationale repose sur un projet artistique qui a été établi par le directeur, sur lequel d'ailleurs il a été embauché, donc ce projet artistique il est accepté par les différents financeurs, donc à la fois fois en ce qui concerne la scène nationale, la région, l'État, le département, les villes. Donc il faut qu'il y ait un accord de principe et à l'unanimité sur ce projet artistique. Et le directeur doit mettre en œuvre évidemment son projet artistique. Et ensuite, on a une convention de développement culturel qui est remise à jour tous les 3 ans et qui redéfinit les objectifs effectivement du projet culturel. Donc c'est un petit peu différent parce que là, c'est vraiment le directeur qui a la responsabilité du projet artistique sur son lieu. Hein. Alors que le projet artistique culturel d'une ville ou d'une structure, de la région, chacun a une vision globale de ce qu'il a envie de faire sur son territoire et donc évidemment choisit ensuite les personnes et d'aider les structures qui vont aller dans le sens de leur projet artistique, c'est sûr.
Non.
Merci.
J'étais en réflexion et du coup, non pour moi, non, pas d'autres.
Eh bien, en tout cas, on va vous remercier, Philippe de Reder, directeur de la scène nationale Évreux-Louviers, Guillaume Poignard, programmateur et accompagnateur voilà. à la
scène. Par rapport à ce qui avait été dit en préambule, effectivement, je ne suis pas le directeur de la gare musique, c'est Bruno Lemoine, administrateur. Oui. Je m'occupe de la programmation et du développement
pour moi,
de projet.
C'est une erreur.
Voilà, merci à vous, en tout cas, d'être venu échanger avec merci nous autour de nos micros. Nous avons la pause musicale qui est Tom Waits. Philippe, pourquoi avez-vous choisi Tom Waits et pourquoi?
Alors en fait c'est une chanson que j'écoute, que j'aime beaucoup, je suis très romantique en fait d'une certaine manière, hein. Donc c'est une chanson de The Briar the Rose qui évoque, c'est une belle allégorie en fait de la lutte disons fraternelle entre les deux Irlandes, l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et donc c'est un texte très poétique sur l'amour en fait, hein, et sur justement la séparation, donc ça raconte un peu l'histoire d'une rose qui pousse à côté de la bruyère, hein. Et donc la rose évidemment ça représente un peu l'Angleterre, la Bruyère c'est plutôt l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et ces deux choses la poussent ensemble, et à un moment donné effectivement un homme fait ce rêve là et se pique à la rose, et ensuite il essaye de séparer en fait les deux, il reçoit une balle et il meurt, et dans sa mort en fait il rêve à ce que l'amour en fait domine et rétablisse, donc c'est à la fois une chanson d'amour, hein, qui est en direction de sa femme, mais sa femme c'est aussi sa terre natale, donc il y a toute cette allégorie là, et donc il y a des versions très belle, hein. C'est une chanson qui est beaucoup beaucoup jouée, et Tom Waits en a fait une version extraordinaire avec sa voix rocailleuse, et je la trouve très très belle aussi. Thank you.
C'était Tom Waits avec The Briar on the Roses. Je suis pas mal là quand même.
Pas mal. Alors, nous sommes à Louviers, une actualité de spectacle vivant avec Oud et Leda. Spectacle actuellement donné au Théâtre du Grand Forum dans la programmation de la scène nationale et en direction du jeune public, tout public. Cécile, toi qui as accompagné les scolaires sur ce spectacle et vu pour le coup cette présentation, cette variation autour du hip-hop, tu peux nous en parler ?
Ben oui, enfin en tout cas je vais essayer. Effectivement, le spectacle il joue à Louviers depuis mardi matin, donc en séance scolaire. On a eu une séance tout public mercredi après-midi et puis encore une tout public ce soir. Alors finalement ce ne sera pas Oud et Leda, hein, parce qu'il y a le comédien...
Un changement de dernière minute.
Voilà, exactement. Le comédien qui était sur le spectacle Oud est blessé, donc il ne pouvait pas assurer les dates ici à Louviers. Mais The Show Must Go On... J'ai envie de dire...
Un artiste s'adapte toujours.
Exactement. Donc, on retrouve par contre bien la chorégraphie, le spectacle qui s'appelle Leda. C'est... En fait, c'est une chorégraphie donc, de Rodrigue Ousmane, qui est un jeune danseur qui finit sa formation ici en France. Lui, Rodrigue, il est tchadien. Et puis, en fait, quand il est retourné dans son pays, il a constaté, à regret, que le plastique avait envahi son pays. Leda, en fait, c'est ce qui désigne les sacs plastiques noirs. Qu'on retrouve beaucoup en Afrique, et il a eu envie, parce que ça l'a vraiment touché, de s'apercevoir que tout avait été envahi au point de dénaturer les paysages. Il avait vraiment envie de parler de ça. Et puis il s'est dit, bah, après tout, un scientifique, quand il a envie de défendre une cause, et bah, il l'explique par A plus B. Un auteur, il va écrire. Moi, je suis danseur, alors je vais danser. Et puis je vais raconter. Ça, mon pays, qu'est-ce qu'il est devenu à cause du plastique, à cause de la pollution. Du coup, ça nous offre un très beau solo qui dure à peu près 40 minutes autour de cette thématique. Et puis, bah, surtout, il a été bien entouré en fait pour ce solo-là, puisque c'est donc lui qui l'a écrit, mais avec le regard extérieur donc de Farid Berki, qui est le directeur de la compagnie Melting Spot, et surtout. Deux autres chorégraphes très importants dans le paysage hip-hop qui sont Kader Atou et Serge Aimé Koulibaly. Voilà, donc c'est vraiment un petit bijou à découvrir. Et puis donc la deuxième partie, parce que c'est un spectacle en deux parties, là c'est, j'ai envie de dire, alors une sorte de cadeau, puisque c'est une avant-première, et en même temps, pour moi, c'est avant tout un essai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Farid Berki, ça fait 25 ans maintenant qu'il danse, ça va faire presque 20 ans qu'il a créé sa compagnie Melting Spot, et bah forcément, je pense un peu comme tout artiste dans une carrière, il y a un moment où on a envie de poser les choses, et aussi de revenir sur tout ce qu'on a fait. Donc, il s'est dit, je vais transmettre, moi, les créations. Ce que j'ai créé là pendant 20 ans, je vais en transmettre des morceaux à mes danseurs. Et donc là, il a eu l'occasion du coup à Louviers de venir montrer ce sur quoi il travaille pour une prochaine création. Donc il a transmis à un de ses danseurs qui s'appelle Johnny Martinage, voilà, plusieurs extraits de ses différents spectacles. Donc c'est un peu pour lui comment ça résonne, ses spectacles, à travers lui, avec toutes les années qui sont passés, et puis comment ça se transmet à un jeune danseur, voilà, comment lui, ce jeune danseur, va s'emparer du propos. Donc ça s'appelle Variation autour de Melting, et c'est vraiment
bah, une avant-première, puisque le spectacle n'est pas créé, on est sur les prémices de quelque chose. Voilà, donc tout ça, c'est voilà, deux petites parties, donc c'est pas Oud et Léda, mais c'est Léda et variations autour de Melting. Voilà, c'est ce soir au Théâtre du Grand Forum à 20h.
Eh bien merci Cécile, on enchaîne avec une nouvelle pause et une dernière pause musicale de cette émission. Alors, qui est...
Alors exactement, nous étions sur la précédente pause musicale en train de discuter avec nos invités, notamment Guillaume et Philippe sur les pauses. Guillaume était prêt à mettre quelque chose, mais finalement Philippe aurait été plus rapide. Je vous propose de nous présenter le dernier extrait musical.
Oh bah, alors vraiment, à l'arrache comme ça, j'ai pris mon iPod, j'ai trouvé un morceau que j'avais de The Pogues, et donc je sais plus d'ailleurs ce que c'est, mais on va le lancer, on va voir, on va découvrir ensemble, voilà.
Ah, c'est pas dans la machine.
Si, ça y est,
ça arrive. Ah, voilà. Passer en foncé à cause de la coque.
Ouais, c'est ça. En fait,
faut enlever la coque et rebrancher.
Voilà, c'est on a un petit souci technique. Voilà, non, c'est non, les joies de la technologie.
Coque plastique.
Voilà,
on est reparti.
Et on est reparti.
We had 2 million barrels of snow. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million ducks, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old nanny ghost tales and a hundred of the Irish Rover.
There was old Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up. He was tooting with skill for each sparkling quadrille, till the dancers were fluter and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dame under and over. They all knew at a glance, when he took up his stance, that he sailed in the Isle.
C'est le dernier choix musical de Philippe de Roder. Vous pouvez redonner le nom parce que je vais avoir un anglais pitoyable.
Mon anglais n'est pas très bon. The Irish Rover.
Voilà. The Pogues.
Pogues. The Pogues.
Eh bien, merci à vous pour cette dernière pause musicale. Et l'émission touche à sa fin. Nous avons partagé quelques dates pour le mois qui arrive. Cécile.
Oui, donc on se retrouve très prochainement avec En attendant Godot, Samuel Beckett, mise en scène Jean Lamberville avec Marcel Bozonnet et Fargas Assendé, mardi 8 avril, 20h30 à Évreux au Cadran.
On rebondit ici même, salle du Grand Forum, avec un magnifique concert, Sinfonia Concertante, l'Opéra de Rouen et son orchestre donnera plusieurs symphonies, Mendelssohn, Mozart et j'oublie le dernier, et Beethoven.
Petit retour, petite remontée dans le temps, parce que dès ce soir, donc vendredi 4 à 20h30 à la Gare en Musique, on accueille une des deux finales du tremplin du festival Ça sonne à la porte. C'est un petit peu long, mais c'est juste un concert avec trois groupes. Voilà. Donc,
dont un des groupes sera retenu pour jouer sur Ça sonne à la porte.
Tout à fait. Donc voilà, il y a deux soirées, ce soir à la Gare, vendredi prochain au Silo. Il y a six groupes qui passent. Sur ces six groupes, on en choisit deux qui gagnent donc leur ticket pour jouer au festival Ça sonne à la porte le 7 juin à Grosse. Et donc ce soir, deux groupes de Caen, parce que c'est un tremplin ouvert à toute la Normandie. Donc on aura Alien Next Door, Plastic Riot et un groupe d'Evreux qui s'appelle 14. Voilà, tout simplement. Donc à 20h30, 5 euros à la gare ce soir.
Je mentionnerai aussi le Easy Gani à Évreux le 16 et 17 avril à l'auditorium du Cadran, un conte africain mis en scène par Fargas Assendé.
Et j'en profite pour passer une dernière petite date du Moulin, justement. La semaine prochaine, le 15 avril, il y a l'artiste associé Ben Herbert Larue qui présente son nouveau spectacle Dentelle Coccinelle avec sa compagnie Au Clair de Plume. Donc à 20h, le 15 avril au Moulin.
Et moi, je terminerai par un coup de cœur dans la programmation de l'abordage. Le samedi 26 avril, sur la scène de l'abordage, il y aura le catcheur, la pute et le dealer qui concluront une soirée électro. Ils sont clairement affichés comme électro-monstres et je vous promets que c'est pas volé comme titre.
Au festival, le Romain Toussé s'est allant passer.
Deux fois déjà,
ouais,
mais c'était très bon à chaque fois.
Ouais, c'est pour ça qu'ils reviennent.
Oui, et ben non, pour moi c'est bon dans l'agenda. On termine par l'extrait de film que nous avons choisi.
Absolument.
Je voulais en parler deux mots. On a choisi la Cour de Babel, le dernier film de Julie Bertuccelli, qui a posé sa caméra pendant un an dans une classe de primo-arrivants à Paris. Des jeunes entre 11 et 15 ans qui arrivent en France, qui ne parlent pas français. Et voilà, elle témoigne de ses parcours singuliers et de cet art de vivre ensemble.
Prochain rendez-vous de Scène de vie, vie de scène, ce sera vendredi 2 mai. Entre deux, nous vous souhaitons un bon mois de sortie.
Un bon mois de sortie. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ni hao. Ayou bovan, sabah al khair.
Dobry den.
Dobry den.
On dit salam alaikum.
Salam alaikum.
Mais c'est pas votre pays, c'est mon pays.
À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile?
Non. Avec qui tu t'entends bien dans la classe?
Personne, avec moi-même.
Oui. Oublie la caméra.
Hop. Je n'ai pas vu ma mère pendant 10 ans. C'est difficile.
Je suis venue en France pour faire un futur.
Je suis venue en France pour devenir une femme libre.
Matin comme à tous ces oreilles.
Pourquoi Kessa critiquerait tes cheveux crépus alors qu'elle a aussi des cheveux crépus?
Il y a plein de gens qui parlent de la classe d'accueil mais qui n'est pas très gentil, tu vois. C'est comme si nous on était des pauvres, eux des stars.
Mais on sait pas qu'on va partir en classe ordinaire.
Peut-être toi tu sais dire bien mais moi je sais pas. C'est pas grave.
Je parle français avec l'accent anglais. Tu as vu?
Vous avez vu?
Vous avez vu?
Tu as obtenu les compliments du conseil de classe.
Ouais.
On pense quand même qu'il faut que tu restes encore un peu en classe d'accueil. J'étais très très heureuse de travailler avec vous.
Il y a bien d'autres élèves avec qui tu t'entends bien.
Avec Dieu, voilà.
Dieu, il n'est pas dans la classe.